Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot, hot.
This is why I'm hot, hot. France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique jusqu'à 20h30. Cet été, les rencontres d'Arles, anciennement appelées les rencontres internationales de la photographie d'Arles, on les connaissait sous le nom de RIP, R-I-P, fêtent leurs 50 ans. Occasion pour nous de revenir ce soir sur ce festival singulier, assez typique de ce qui se fait dans le sud de la France et en même temps différent, et d'évoquer l'état de la photographie comme art, la photographie confrontée au cinéma et bien sûr au numérique. De cela nous parlons ce soir avec Sam Stourzé, directeur des rencontres d'Arles. Ça fait 5 ans que vous dirigez ces rencontres dédiées à la photographie et vous êtes mon invité ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Si d'un mot vous aviez à définir la programmation de l'année qui vient, celle donc 2019, cet été, vous la feriez comment ?
Éclectique, ambitieuse, assommante, 50 ans, 50 expositions.
Ça fait 3 mots, très bien, très bon résumé. Abdelilah Laloui est président de l'association Tous Curieux. Cet étudiant à Sciences Po a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines en décrivant le gouffre culturel qui existe entre les jeunes des quartiers et l'art. Il se propose d'essayer de corriger cet éloignement culturel par de nouveaux outils de démocratisation artistique. On en parle avec lui dans un instant. Seconde partie d'émission, 20h, innovation avec votre invité ce soir, Zoé Svez.
C'est le journaliste Fabien Benoît qui signe The Valley, un ouvrage paru aux éditions des Arènes, une histoire politique de la Silicon Valley. Après avoir reçu la semaine dernière Tristan Harris, un renégat du système de la Silicon Valley, on enquête effectivement avec Fabien Benoît sur cette histoire politique de la Silicon Valley. Il y a bien une idéologie derrière la Silicon Valley. Jusqu'à quel point peut-elle changer nos vies ? On en parle avec lui.
20h10, le club de la presse numérique. Nous parlerons ce soir du groupe Média Vivendi et de ses forces, de ses faiblesses. Et nous serons avec Sandrine Cassini du journal Le Monde et avec Gilles Fontaine de Challenge pour en débattre. Voilà pour le sommaire de cette émission Soft Power ce soir. Émission exceptionnellement enregistrée. Elle est réalisée par Séverine Cassard avec en régie Théo Gomard. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture. Dans l'actualité, pour commencer cette émission, un étudiant de Sciences Po, Abdelilah Laloui, qui est né dans un quartier près de Roubaix, dans le Nord, et a grandi dans les quartiers de Créteil, en banlieue parisienne, a raconté dans la presse et sur plusieurs plateaux de télévision comment il a été confronté à l'art, avec un grand A majuscule, comment il n'avait pas les codes et comment il a eu honte, je le cite, de son manque de culture. Il a créé une association, Tous Curieux, qui vise justement à aider les jeunes des quartiers à, disons le mot, se cultiver. Bonsoir Abdelilah Laloui.
Bonsoir.
Beaucoup de jeunes des quartiers valorisent leur propre culture, que ce soit le rap, une certaine musique pop, une certaine culture télé ou cinéma. Mais vous vous dites avoir, je vous cite encore, eu honte longtemps de votre culture, de votre manque de culture.
C'est ça, plutôt de mon manque de culture. C'est un sentiment que j'ai ressenti à mon entrée à Sciences Po, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir assez de références, entre guillemets, classiques. Les références de la culture dominante, entre guillemets.
Et aujourd'hui, dominante, en tout cas celle de l'élite.
Celle de l'élite, c'est ça. Cette notion, la culture dominante, pour moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, pour moi, elle est purement sociologique et rien d'autre. Et on a tendance souvent à laisser la confusion entre les deux. Ce qui en fait nous éloigne, nous, c'est-à-dire les jeunes de banlieue, mais aussi les jeunes de province et ailleurs en France, on a tendance à se cantonner à une certaine culture et à s'enfermer dans la culture dominante. Qu'est-ce qu'on inclut ? On inclut la littérature, le théâtre, on inclut l'opéra, on inclut la musique de manière générale. Et finalement, en utilisant cette notion de culture dominante et en disant il y a une culture dominante et il y a une culture populaire, il y a plusieurs sortes de cultures, socialement, on enferme les gens et on laisse les classes sociales s'accaparer la vraie culture.
Vous rêviez, racontez-vous, de devenir frigoriste, comme votre père. La culture, elle peut être une source d'émancipation pour vous ?
Bien sûr. D'émancipation sociale, d'émancipation intellectuelle, d'émancipation individuelle. Et souvent, la culture est posée comme quelque chose qui peut nous permettre une certaine émancipation sociale, avant tout. Et ça aussi, ça me pose beaucoup de soucis, parce que, justement, nous, c'est le discours qu'on prône avec l'association Tous Curieux. On pense que la culture est avant tout quelque chose qui peut nous permettre de nous émanciper sur tous les plans, mais qui peut surtout nous permettre de nous émanciper en tant qu'individu.
Avant d'en venir à l'association, continuons et terminons peut-être sur vous. Quels ont été les déclics qui expliquent que qu'est-ce qui vous ont fait prendre conscience de ce décalage? Vous avez raconté notamment que Amélie Nothomb, que vous avez vu à la télévision parler de Rilke. Comment ça s'est passé concrètement?
Cette prise de conscience s'est faite réellement à partir du moment où j'ai préparé le concours de Sciences Po dans le cadre de la convention éducation prioritaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on nous dit vous devez préparer un autre concours que celui de vos camarades, un autre concours que le concours classique, parce que vous avez un manque de culture, forcément on se pose la question, on se demande pourquoi. Et il y a deux réactions, soit on se recroqueville, justement on dit bon, moi, je connais ma culture, j'ai une culture de banlieue, j'ai du rap, j'ai la culture de mes parents, ça me suffit, et puis je vais aller à Sciences Po et je vais pas trop m'assimiler. On a soit cette réaction, soit on rentre dans le tas et on dit mais non, en fait la culture c'est autant celle de mes parents que celle qu'on va nous transmettre entre guillemets à Sciences Po. Et ensuite je me suis plongé moi-même, lorsqu'on m'a donné des références, lorsque j'ai commencer à suivre des émissions, aller sur des chaînes comme France 5, Arte, etc. Et justement, j'ai entendu Amélie Nothomb sur La Grande Librairie, l'émission La Grande Librairie, dire qu'un livre, un jour, lui avait changé la vie.
Et livre, c'était donc
Lettre à un jeune poète. Lettre à un jeune poète qui m'a profondément changé.
Vous l'empruntez au CDI, vous essayez de le lire, et comme vous l'avez raconté dans un portrait du journal Le Monde, grosse claque, vous ne comprenez rien.
C'est ça. C'est un problème auquel on est confronté. Et on doit passer par là, parce que les bagages culturels, pour les former, il faut bien commencer à un moment. Et ça aussi, c'est un gros problème, c'est que on veut favoriser l'accès à la culture à des gens qui n'ont pas, et ça, il faut regarder les choses en face, qui n'ont pas de bagages culturels. Et donc, pour lire un livre comme Rilke, et d'ailleurs dans nos interventions, on a tendance à modifier des mots pour que les élèves puissent se sentir plus proches du texte, alors qu'ils le sont en fait, parce qu'il n'y a que quelques mots qu'ils ne comprennent pas, mais tout de suite, socialement, on va se dire... Alors, ce texte n'est pas pour moi parce qu'il y a 3-4 mots que je ne comprends pas dans le paragraphe. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu cette réaction sociale qui, pour moi, est une réaction sociale. On est tous capables de lire Rainer Maria Rilke en première. Que l'on vienne de Louis le Grand ou de Gutenberg, comme moi, à Créteil, on est tous capables de le lire, ce bouquin. On a juste une certaine, et c'est ce qu'on combat, une certaine pression sociale et un certain sentiment d'illégitimité qui m'a accompagné jusqu'à Sciences Po, d'ailleurs, et que maintenant, je ne ressens plus du tout.
En même temps, vu de Créteil, Sciences Po, c'était pas fait pour vous. C'était, entre guillemets, pour les gens cultivés. C'était,
c'est ça.
Donc, vous n'étiez pas, en tout cas, c'est ce que vous racontez. Vous vous sentiez illégitime.
Illégitime, c'est ça.
Et d'une certaine manière, donc, grâce au programme des ZEB, vous réussissez à intégrer Sciences Po et vous débarquez, de Créteil à Saint-Germain-des-Prés, direct. Là, c'est une autre planète culturelle.
Une autre planète culturelle, surtout une autre planète sociale. C'est surtout des codes sociaux qui, pour moi, en fait, barre la route à la culture.
Oui. Mais c'est un trajet de transfuge de classe, c'est ça le terme, le très beau portrait dans Le Monde ces derniers temps. Cette question de l'illégitimité, tout le monde y est revenu, et ça fait plusieurs vingtaines, trentaines d'années qu'à peu près tous les ministres de la Culture et les ministères de la Culture, notamment depuis Jack Lang et l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, ambitionne de démocratiser la culture. En tout cas, dans les discours, c'était le discours notamment d'à peu près tous les ministres sous François Hollande. Pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas? Qu'est-ce qui manque?
Il manque un mouvement qui vient de l'intérieur. Ce qui nous démarque, avec Tous Curieux, on a beau avoir une petite trésorerie de 1500 euros, ne pas être le ministère de la Culture, mais on a un avantage, c'est qu'on est les premiers concernés et que le mouvement vient de l'intérieur. Donc cette fois-ci, on n'est pas dans une situation où un ministre de la Culture, le gouvernement, vient apporter quelque chose à une partie de la population. On a une partie de la population à une échelle très très réduite, parce qu'on est une toute petite communauté pour le moment.
Quoi, une centaine de bénévoles?
On a une centaine de bénévoles et on a 400 élèves, sans compter les professeurs qui sont autour, les
acteurs
culturels.
Et quelques parrains, comme d'ailleurs Sandrine Trainer, directrice de notre chaîne, et aussi Jack Lang.
C'est ça. Nicolas Drouin, Zaya Zouani, Aïcha Moudari.
Mais comment ça marche concrètement? Qu'est-ce que vous faites?
Alors concrètement, on essaye de reproduire le déclic que j'ai vécu au lycée lors de la préparation de mon concours. Et la dernière assemblée qu'on a animée justement portait sur la littérature. Et on leur a posé, la question du jour était la question que je me suis posée C'est-à-dire, à quoi sert un livre, en fait, concrètement? On a tous ce livre chez nous, souvent il y a de la poussière dessus, on ne sait pas trop ce que c'est. On a l'impression justement que c'est les gens cultivés qui préparent le concours de Sciences Po qui peuvent le lire et pas nous.
Ou alors on ne l'a pas, d'ailleurs.
Ou alors, ouais, on l'a pas.
Bon, ou alors on ne sait pas ce que c'est Sciences Po.
Ou alors on ne sait pas encore ce que c'est Sciences Po.
C'est le cas de beaucoup de Français, y compris sans doute nous quand on était jeunes.
C'est ça, il y en a comme beaucoup d'écoles. Comme beaucoup d'écoles, mais c'est pas tellement le problème, moi, qui m'intéresse, c'est celui de la culture. Sciences Po n'est pas une fin en soi. Et Sciences Po est une grande école, mais c'est pas le rêve de tout le monde. Et on n'a pas tous envie de
Alors, tous curieux, ça marche comment? Qu'est-ce qui va faire
curieux,
que
justement, donc...
vous serez pas un ovni et un cas singulier, mais que d'autres vont pouvoir suivre ce parcours?
Alors, premièrement, on est, comme je le disais, les premiers concernés. Donc, on va s'adresser à des personnes qui nous ressemblent, qui s'identifient à nous. Et je suis convaincu que les meilleurs médiateurs culturels sont les personnes qui ressemblent et qui connaissent les publics. Et on a beau avoir fait l'école du Louvre, on va avoir beaucoup de mal à captiver l'attention si on n'essaye pas de comprendre qui on a en face de nous, et si on n'essaye pas de comprendre la sensibilité des personnes qu'on a en face de nous, on va avoir beaucoup de mal à leur transmettre quoi que ce soit. Et nous, alors, du coup, la particularité et la base de notre action, c'est la sensibilité, en fait. On veut créer des rencontres. Donc nous, notre intérêt, c'est pas, comme je le dis à chaque fois dans mes formations, mon intérêt, c'est pas de transmettre des connaissances aux élèves. Je suis pas une prépa Sciences Po ou une prépa ENA, je veux pas leur transmettre des bagages culturels. Je veux juste dire à des gens, vous pouvez vous confronter à des œuvres, quelle que soit la forme de cette œuvre, quelle que soit l'origine de cette œuvre, vous pouvez le faire tout simplement en laissant votre sensibilité, en fait, s'accaparer de ce que vous avez en face de vous. Et que ce soit la musique de... Et ça va aussi, et ce qui est intéressant, c'est que ça va dans les deux sens. On peut aussi éveiller cette sensibilité chez des jeunes de Sciences Po, des jeunes de Sciences Po de mon âge, qui vont tout de suite catégoriser des musiques, comme des styles de musique comme le rap, ou qui vont mépriser certaines formes de culture. Et finalement, eux aussi ont un déficit, je dirais, culturel, parce qu'on parle souvent de l'inverse, et moi je me bats parce que c'est ma priorité. Moi, ma priorité, c'est que les jeunes puissent avoir, qu'on accompagne, puissent avoir les bagages pour s'en sortir dans la société. C'est avant tout ça le combat de l'association.
Ce sont des lycéens, les jeunes que vous accompagnez, qui c'est précisément?
Des lycéens et des collégiens. Les collégiens, et ça, c'est assez intéressant, les collégiens sont beaucoup plus réceptifs que les lycéens. Parce que les lycéens, on a encore ce problème d'ego, en fait, face à la culture. Qu'on retrouve chez les adultes, d'ailleurs. Nous, on se permettrait jamais, parce que l'ego chez les adultes est surdimensionné en général sur cette question-là. Et dire à quelqu'un, vous n'avez pas assez de culture, c'est très compliqué. Enfin, à quelqu'un d'un certain âge, c'est très, très compliqué. Alors que malheureusement c'est le cas et il y en a plein et c'est pour ça que les discriminations existent. Pour moi les discriminations existent à cause d'un manque de culture. Du coup les collégiens, plus on est jeune et plus on arrive à accéder à leur sensibilité et à leur éveil.
Alors j'ai vu que vous aviez choisi des choses qui ont marché pour moi aussi quand j'avais 13 ans. Stéphane Zweig, ça marche très très bien, bah, comme choc culturel. Il va y avoir dans un an ou deux ans, enfin de manière assez proche, cette initiative, je parlais du ministère de la Culture, du Pass Culture. Vous regardez ça comment concrètement dans l'association Tous Curieux? Parce que c'est théoriquement une application qui a été pensée, je vous vois faire la moue, avec des lycéens, avec toujours cette question, est-ce qu'ils iront vers une culture qui n'est pas la culture qui est la plus proche d'eux? Qu'est-ce que vous en pensez?
Ce qui me pose problème avec ce Pass Culture, c'est qu'on est encore une fois dans une logique en fait marchande de la culture. Donc on va dire à certaines personnes, on vous attribue 500 euros pour faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Oui, mais et après, enfin, quel est l'intérêt en fait du Pass Culture? C'est de se donner une bonne conscience ou c'est de d'éveiller des gens et de les confronter à quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Je pense pas qu'en disant voilà, vous avez 500 euros, allez-y. Il y a telle ou telle pièce, on vous la conseille parce qu'elle est sympa. Enfin, on ne bougera pas les lignes comme ça.
Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, le Pass Culture. Et puis, l'aspect économique joue un rôle dans ces questions. Mais est-ce qu'on... donc, vous voulez désacraliser le rapport des jeunes des banlieues à la culture. On peut évidemment, si on veut se faire l'avocat du diable, vous reprocher, certains l'ont écrit d'ailleurs, de vouloir un peu imposer la culture légitime aux jeunes des quartiers qui, peut-être, vivent très bien sans... Et sans doute n'en attendent rien, parce que ça va leur permettre quoi? De trouver un meilleur job? Est-ce que c'est possible?
Alors non, je réponds à cette affirmation du coup. Les jeunes vivront beaucoup mieux avec cette culture dominante. Alors moi je suis pas du tout de mauvaise foi. Le langage, il faut l'avoir. Pour passer un entretien, il faut savoir parler français, c'est aussi... Alors, et lorsqu'on me dit que la littérature, c'est de la culture dominante, de la culture légitime, j'ai envie de leur dire, mais ok, bon, enfin, du coup, qu'est-ce qui nous reste, en fait?
Ils ont déposé déjà 50 CV dans tous les McDonald's de leur quartier et qu'on les a toujours refusés...
Eh bien, il faudra ouvrir les personnes qui engagent et qui font passer les entretiens à la culture aussi, parce que le travail se fait dans les deux sens. Parce que c'est le racisme, encore une fois, et on est dans ce combat-là aussi. C'est pour ça qu'on veut complètement, et vous disiez qu'on veut désacraliser le rapport à la culture des jeunes, mais on veut aussi, enfin, on veut désacraliser le rapport à la culture de manière générale, pas seulement des jeunes de banlieue. Et lorsqu'on l'aura fait, on aura dans les deux sens, en fait, quelque chose qui aura avancé, c'est-à-dire qu'on aura des jeunes qui pourront passer un entretien parce qu'ils auront confiance en eux et qu'ils auront les bagages, et on aura des personnes, des entrepreneurs, des personnes qui vont engager, qui seront beaucoup plus conscients des gens qu'ils ont en face d'eux, quoi. Et on va pas être dans le cliché de prendre des gens au quota, de une entreprise, une banque qui va prendre 30 CE, enfin, ce que fait Sciences Po, d'ailleurs. Mmh. Mais on en a besoin en même temps de ces initiatives, mais prendre 30 jeunes exclusivement de banlieue, enfin, moi, ça me dérange, ces quotas.
Mais en
moi,
même temps, c'est ce qui vous permet d'être là où vous êtes aujourd'hui.
Bien sûr, mais moi, je suis en même temps le produit de cette
comment
dire
de cette
discrimination positive, mais pour moi qui doit à terme s'éteindre en fait totalement et dire à des gens
mais c'est ce qu'avait dit Richard Descoings d'ailleurs à l'époque quand il avait créé est-ce que deux questions d'abord est-ce que il y a une demande quand même est-ce qu'une fois que vous ouvrez un petit peu la porte avec ces jeunes de banlieue il y a une demande réelle parce que on va vous dire qu'effectivement il y a eu des MJC il y a des maisons de la culture et que personne n'y va même si ça je me fais moi aussi l'avocat du diable et surtout à terme vous avez une ambition d'échelle qui est de l'ordre de quoi est-ce que vous voulez devenir entre guillemets une institution parce que c'est ce qui risque de vous arriver si ça fonctionne bien, ou est-ce qu'il faut au contraire rester une association ? Donc loin, disons, de politiques publiques affichées.
Alors justement, c'est la crainte. Alors, pour répondre à votre première question, bien évidemment, on a des retours de la part des élèves. Les élèves adorent, et c'est ce que je dis à chaque fois, lorsqu'on les confronte véritablement aux œuvres, ils adorent. Donc ils vont adorer la littérature comme ils vont adorer l'opéra. Et pas parce que c'est de la culture dominante et qu'ils en ont besoin, mais parce que tout simplement c'est beau, quoi. Ils aiment le beau comme tout le monde. Ouais. Et la dernière assemblée, on a quatre mecs qui sont venus nous voir nous demander la référence du bouquin Lettre à un jeune poète pour le lire chez eux. Donc ça fonctionne et c'est toujours à une petite échelle. Nous, on est sur 400 élèves. On n'a pas pour ambition, et justement pour répondre à votre deuxième question, on a pour le moment, on n'a pas l'ambition de s'étendre considérablement partout en France parce que justement on a cette crainte de s'institutionnaliser et de perdre l'esprit de l'association. Et on a énormément de demandes depuis l'article du Monde dans toutes les villes de France. Donc on a eu au moins une cinquantaine de lycées en France qui nous ont demandé de s'implanter chez eux.
Ça passe par les profs et où les lycées ?
Voilà, nous on passe par les lycées, mais on a même des régions qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils aimeraient qu'on s'implante chez eux. Mais on s'est
d'ailleurs, vous avez des petites antennes, 5 je crois.
Donc voilà, mais à Paris, et on a décidé pour l'année 2019 et 2020, et c'est décidé de se concentrer pour le moment en Île-de-France. Donc on va prendre une nouvelle zone qui est le 93, donc c'est la première fois qu'on va travailler là-bas avec la fondation de vente privée. Et on va travailler dans cette zone-là, et puis ensuite, peut-être en 2021, 2022, 2023, enfin, on verra s'étendre lorsqu'on aura consolidé, en fait. Il faut aussi qu'on ait une certaine légitimité, parce que aller dans les lycées et imposer une certaine manière de faire, c'est très très difficile envers les professeurs, la direction, etc. Et le rectorat qui sont très stricts.
Une dernière question, peut-être. Est-ce que vous croyez qu'il y a une... Vous avez évoqué des mots, d'ailleurs, dont on pourrait parler, en discuter, dominant, légitime, etc. Est-ce que vous croyez qu'il y a une hiérarchie, finalement, culturelle entre, disons, d'une part, l'art avec un grand A majuscule, Shakespeare, René Char et Rilke, pour aller vite, et une autre chose qu'on appelle la sous-culture, en fait, en anglais c'est plus beau, on dit subculture, fait, je ne sais pas, de rap, de séries télé, etc.
Non. non, alors, je... En général, j'y réfléchis en même temps. Donc, mais c'est une question que je me pose et qui n'a pas de réponse. En fait, non, je ne crois pas en la hiérarchie de la culture. Pourquoi ? Tout simplement parce que je pense, moi, qu'à partir du moment où on a une expression, l'expression de quelque chose, c'est de la culture brute, et on peut pas les différencier. Donc, le jeune de banlieue qui va chanter du rap de manière très violente, c'est autant de la culture que Vivaldi qui voulait exprimer sa foi religieuse, parce que tous les deux ont vécu quelque chose et l'ont exprimé à travers l'art, à travers la culture. Donc à ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie, sauf socialement, où là, on va avoir bien évidemment un certain style de musique qui va être plus valorisant à Sciences Po qu'ailleurs.
Abdelilah Laloui, président de l'association Tous Curieux, étudiant à Sciences Po, c'est le mec dont on dit qu'il veut écouter France Culture.
Il y est.
Dans un instant, je reçois Sam Storzé, le directeur des Rencontres d'Arles. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité, un mot sur de la culture. Le nouvel album du rappeur américain Tyler, The Creation, sorti le 17 mai. Parmi les titres de cet album, le morceau Earthquake, que l'on écoute, a été initialement imaginé pour le chanteur canadien Justin Bieber et pour la chanteuse Rihanna qui n'en ont pas voulu. Comme la plupart des rappeurs, Tyler, The Creator, invite toutefois sur ce nouvel album entièrement dédié à sa conception des amours et à leur belle déception, la chanteuse Solange, le rappeur Asap Ferg, Berg. Il a également travaillé sur cet album avec Frank Ocean et reçu le soutien de Kendrick Lamar. Il faudra faire un jour l'histoire de la grande famille du rap noir mainstream américain, où la plupart des artistes sont interconnectés, reliés, ils se soutiennent les uns les autres dans un incroyable mouvement de solidarité musicale et parfois commerciale, qui est en rupture avec un certain gangsta rap des années 90, où tout le monde s'affrontait un peu et souvent violemment, indique de vraies générosité, de profondes empathies. Taylor, The Creator.
Body roll, huh? Don't give a fuck about none, huh? Ain't like fuck my lord, huh? Might call my lord, huh? Love gon' set me up, huh? Bitch gon' set me up, huh? I'm retarded, yo. He ride like the car, huh? And she weak, huh? Yeah, like Wolf Vicky, huh? Yeah. Oh my God, hold up, damn not tipping, huh? Yeah.
À l'instant, Taylor the Creator sur France Culture.
France Culture, soft power. Frédéric Martel.
Je reçois Sam Sturze, le directeur des Rencontres d'Arles. D'ailleurs, un nom, il vient d'où votre nom, alors que vous êtes français?
Le nom Rencontres d'Arles ou le nom Sturze?
Commençons par Sturze, parce qu'on a du mal à le prononcer.
Pourtant, il se prononce exactement comme il s'écrit.
Sturze.
Très bien. Il paraît qu'il est géorgien, disent ceux qui connaissent, le RDZ, Tchevernadze, tout ça. Moi, c'est à deux ou trois générations, donc je
ne suis pas
jamais allé.
Parlons du nom, Rencontre internationale de la photo, les RIP, ça faisait un peu quelque chose qui était en train de mourir, que vous avez rebaptisé, qui ont été rebaptisés Rencontre d'Arles.
Oui, mais ça raconte pas mal de choses. C'est vrai que l'acronyme Rest in Peace était un peu cruel, même s'il faisait bien sourire. Et puis, c'était assez amusant de voir ce nom qui clamait son côté international et à la fois qui était absolument imprononçable par les anglophones. Rencontre, pour un Américain, c'est hyper dur à prononcer.
Enfin, vous l'avez gardé, Rencontre d'Arles.
On l'a absolument gardé parce qu'on aime cette difficulté. En fait, les premières années, il a vraiment fallu déclarer qu'on était international et tout tourné vers l'extérieur. Aujourd'hui, et ça fait un petit moment déjà, le côté international est clairement acquis. Et ce qui nous intéresse, c'est le mouvement inverse. C'est de bien repointer sur la carte où on est, que c'est à Arles que ça se passe. C'est Arles qui devient la capitale internationale de la photographie le temps de l'été.
Alors Arles, c'est en 1970 que trois personnes, Lucien Clergue, photographe d'ailleurs arlésien, Michel Tournier, écrivain, mort il y a quelques années, l'historien Jean-Maurice Rouquette, décident de créer ces rencontres.
Absolument, trois personnes et qui constituent ensemble une espèce de trio infernal, la rencontre du patrimoine. Rouquette était responsable des musées d'Arles et du patrimoine, un formidable historien qui est disparu l'année dernière. Lucien Clergue, photographe, donc tenant d'un art contemporain, la photographie, et puis une petite dose de people, on dirait aujourd'hui. Vous voyez, le luxe qu'on a comme people, c'est Michel Tournier.
Mais aussi un grand écrivain.
Et un grand écrivain.
Un des plus grands écrivains français.
Alors quand il commence, il n'a pas encore...
Il n'a pas écrit Le Roi des Aulnes et
non,
tout ça.
Il n'a pas encore eu son prix Goncourt.
Vendredi, mais l'âme du Pacifique ou La Vie Sauvage, il y en a deux.
Il est surtout, vous l'avez peut-être oublié, présentateur à Feu l'ORTF, où il anime une émission dédiée à la photographie, La Chambre Noire, avec Plessis, qui est le rédacteur en chef de Images et Points de Vue du Monde. Très bon journal pour la photographie à l'époque et très fin connaisseur. Et donc les deux, tous les mois, reçoivent pendant une heure des grands inconnus de l'époque, Man Ray, Lucien Clergue, Brassailles, et s'entretiennent avec eux dans des grands moments de télévision comme on n'en a plus beaucoup aujourd'hui.
Parce qu'il faut quand même rappeler quelque chose qui ne paraît pas évident aujourd'hui, mais la photo est quand même un genre, on va pas dire marginal, mais n'est pas tout à fait, n'a pas encore ses lettres de noblesse au moment où les rencontres
d'un mari.
Elle n'est pas du tout légitime.
Enfin, absolument.
Très peu légitime.
Et si nos trois compères s'unissent pour montrer de la photographie, c'est parce que, à l'époque, elle n'est montrée nulle part et ils considèrent qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et Arles va vraiment participer de la reconnaissance institutionnelle de la photographie à une époque où le grand débat, c'est est-ce un document, est-ce un art? Et pour la plupart des conservateurs, qui sont, comme leur nom l'indique, très conservateurs, c'est tout tranché, c'est un document. Aujourd'hui, on assiste presque à l'inverse. La photographie est partout, elle nous envahit et le flot d'images nous submerge. Et le rôle d'Arles, c'est bien de faire un arrêt sur image et d'éditorialiser parmi ce flot, de produire un peu de sens. On rejoint d'ailleurs le débat que vous aviez à l'instant,
oui,
qui m'intéresse beaucoup sur ces questions de culture, d'accès à la culture et pourquoi la culture. Ben la culture pour essayer de réfléchir, de produire du sens, d'avoir une approche critique sur les choses. Et finalement, si c'est un morceau de rap ou un texte de ce qu'on pourrait appeler la grande littérature qui vous fait réfléchir, le résultat est bon.
Photographie, ça veut dire écriture de ou par la lumière. Donc, il y a déjà le sens du mot est déjà particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui singularise les rencontres internationales de la photographie et désormais les rencontres d'Arles, leur lien avec les artistes, les lieux où vous les présentez, le modèle d'ensemble de ce festival?
Alors, c'est surtout d'offrir aux visiteurs une expérience globale qui est tout à la fois une déambulation dans la ville extraordinaire, petite ville française de 55 000 habitants.
Mais la plus grande par sa superficie, comme vous savez.
Plus grande commune de France, voilà. Absolument.
À cause de la Camargue, en fait.
Grâce à la Camargue. et surtout, plus grand patrimoine romain après Rome. Ville classée par deux fois au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son patrimoine romain et roman, les églises se comptent sur les doigts des mains, des pieds et des amis.
Le
théâtre romain, le théâtre antique, les arènes, les cryptoportiques.
La cathédrale.
Et c'est bien ces lieux qu'on envahit le temps d'un été. Les visiteurs sont invités à pousser les portes de lieux qui leur sont pas accessibles le reste du temps pour y voir la crème de la crème de la création photographique. Il y a une aventure qui est beaucoup moins intimidante que celle du musée, qui est certainement beaucoup plus fédératrice, beaucoup plus ouverte. C'est pour nous, les organisateurs, une quadrature du cercle. On a à la fois les grands professionnels, tous les grands conservateurs, directeurs de musées se sont réunis là pendant la semaine d'ouverture, 18 000 professionnels. Et puis le reste de l'été passe un public d'habitués, d'amateurs, de connaisseurs ou de gens qui voient leur première exposition ou leur seule exposition de l'année. Et ces publics cohabitent et trouvent un intérêt dans la programmation qu'on propose.
Et puisque pour se rendre compte, effectivement, il y a effectivement tous les lieux. Vous exposez beaucoup dans les églises aussi, à Arles, qui vous ouvrent leurs portes, certaines désacralisées ou pas, c'est toujours très troublant. Vous parliez de la question
très
de la légitimité.
Très troublant et très beau.
Très troublant et très beau, en général. Vous parliez tout à l'heure de la question de la légitimité de la photographie. On est, vous l'avez dit, dans un moment où la légitimité de la photo est de plus en plus forte. Le Centre Georges Pompidou a ouvert sa section photo il y a 2-3 ans. La question des archives et de la manière dont on conserve les photos commence à préoccuper tout le monde. Et puis, vous parliez de la question de la légitimité, c'est en même temps ce type d'art qui peut provoquer un choc esthétique assez direct, contrairement à la littérature. Comment est-ce que vous regardez cette institutionnalisation de la photo? Est-ce qu'elle fait du bien aux artistes et au marché ou pas?
Oula,
ouais.
Beaucoup de questions. Ce qui est sûr, c'est que on est au milieu d'une révolution. Je me lancerai pas là dans un grand cours sur la révolution numérique qu'on est en train de vivre, mais elle est évidente
affecte la photo.
Elle affecte parce qu'on assiste à une bascule du textuel vers le visuel. Et effectivement, la photo est absolument partout. Mais du coup, on n'a jamais eu autant besoin des artistes pour poser leur leur regard sur le monde. En fait, la photo est un des médiums qui permet le mieux de raconter le monde qui nous entoure. Ce qui pouvait être un débat, une hésitation à l'époque, document ou bien œuvre d'art, aujourd'hui, la synthèse se fait. Elle est bien évidemment document et œuvre d'art. Elle est à la fois témoignage et vision très particulière, vision des artistes, quand c'est un artiste qui la pratique. Et c'est bien ce qu'on essaye de faire à travers la programmation de ce festival, d'être la caisse de résonance de pratiques artistiques.
Vous connaissez sans doute le photographe et d'ailleurs critique de photographie à l'origine au journal Le Monde, Hervé Guibert, romancier par ailleurs. Il y a dans son journal une phrase que j'aimerais vous citer, il dit « Je me défendrai toujours d'être un photographe, cette attraction me fait peur, il me semble qu'elle peut vite tourner à la folie, car tout est photographiable, tout est intéressant à photographier, et d'une journée de sa vie, on pourrait découper des milliers d'instants, des milliers de petites surfaces, et si l'on commence, pourquoi s'arrêter ?» Question évidente par rapport à Instagram, somme d'instants avec ces milliers de petits instants, la photo est partout, tout le monde est photographe. Comment ça affecte le monde professionnel de la photographie ?
Oh, ça a fait basculer pas mal de choses et ça a fait dire d'ailleurs à un certain nombre de professionnels, de photographes professionnels, que la photo ne s'est jamais aussi bien portée, alors que les photographes eux-mêmes se sont
très mal
aussi
portés.
Mal
le marché
portés.
De la photo, on peut le dire économiquement, hein, il y a la foire Paris Photo qui le dit chaque année, rapporte de plus en plus, les gens investissent de plus en plus dans la photo, la collectionnent, l'achètent, et les photographes vont très mal.
Oui, c'est ça, c'est le sort d'un petit nombre de pouvoir vendre leurs œuvres très très chères. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel record on a pu encore assister. La photo la plus chère du monde doit valoir 3 millions d'euros et pour autant, la plupart des photographes et des artistes en général, il y a un très intéressant rapport du ministère de la Culture qui dit qu'il y a 65 000 artistes en France et que la grande partie d'entre eux vit avec moins de 1 400 euros par mois.
Une question de Abdelila Laloui qui est restée avec nous.
Oui, et justement avec Instagram, effectivement, tout le monde peut s'improviser photographe. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui se prennent pour de très grands photographes avec leur petit téléphone. Et je me pose du coup la question, en fait, de savoir si vous pensez que on doit quand même garder un certain rapport à la photographie exigeant. Est-ce que vous pensez que justement tout le monde peut photographier quelque chose et en dégager quelque chose, ou on doit laisser ça aux professionnels entre guillemets?
Ça dépend de quelle histoire on veut raconter. Ce qui est formidable avec la photographie aujourd'hui, c'est qu'elle est tout autant une histoire esthétique, avec des grands maîtres, avec des chefs-d'œuvre, qu'une histoire sociale. Si j'expose aujourd'hui les albums de famille des années 50, donc des corpus amateurs, l'équivalent d'Instagram aujourd'hui, je suis capable de raconter une tranche de vie des années 50. Donc, pour vous répondre, c'est intéressant, sauf qu'il faut que chacun reste à sa place. Une production amateur reste une production amateur. Ma plus grande préoccupation aujourd'hui, elle n'est pas que quelques-uns se prennent sur Instagram pour des grands artistes, elle est de se projeter dans demain et de se dire comment, de ce flot numérique où on a pourtant, paradoxalement d'ailleurs, jamais produit autant d'images, qu'est-ce qu'il en restera dans 50 ans ? Est-ce qu'on peut faire confiance à Instagram, Facebook et consorts pour conserver notre mémoire visuelle ? Parce que vos photos, aujourd'hui, elles sont dans votre téléphone, dans votre ordinateur, dans le cloud, sur des serveurs qui ont une durée de vie de quelques dizaines d'années. Donc, quelle mémoire des années 2020 on aura dans 50 ans ? Peut-être qu'en fait, on peut être assez inquiet de ça.
Une question de Zoé Sfez qui a donc pas la possibilité de faire ce soir un selfie avec notre invité.
Et non, parce que moi je ne fais jamais de selfie, mais bon, ça c'est une autre affaire. Sur la programmation que vous avez choisie, Sam Sourdé, pour ses 50 ans, qu'est-ce que justement, comment est-ce que vous avez choisi de la faire, cette programmation ? Est-ce qu'elle est rétrospective ou pas ? Et comment est-ce que vous réagissez à deux tribunes, ou en tout cas deux textes qui vous mettent un peu en cause ? Le premier sur la présence ou l'absence, ou en tout cas la présence trop faible de photographes femmes à Arles. C'est une tribune qui est parue dans un journal qui a été signé par plusieurs photographes femmes. Et puis, pour ces 50 ans, une espèce de disparition de l'Afrique après une très forte présence de l'Afrique au Festival d'Arles il y a 2 ans, notamment à l'époque des grandes expositions sur Malik Sidibé.
Je prends dans l'ordre croissant des trois questions. Qu'est-ce qu'il y a dans la programmation 2019 pour ces 50 ans? Beaucoup de choses, 50 expositions. Et ce que vous évoquez est très juste. On s'est posé beaucoup de questions pour savoir si on allait porter un regard rétrospectif sur les 50 dernières années ou se projeter dans l'avenir. Et ben, on a décidé de faire les deux. C'est pour ça qu'on fait une quinzaine d'expos de plus que d'habitude. On avait envie de se pencher sur ce qui s'était passé dans la photographie au cours des dernières années, notamment comment la photographie avait pu être utilisée comme une arme de résistance en Allemagne de l'Est, avant la chute du mur, puisqu'on célèbre un autre anniversaire, les 30 ans de la chute du mur, en Espagne, juste après la chute de Franco, sous la Tchécoslovaquie communiste, avec le travail, la belle découverte de Libuche Jarkajakova, qui est une espèce de Nan Goldin pragoise, inconnue, photographiant dans les années 80 les deux bois de guet de Prague, qui aurait pensé. Mais ce regard rétrospectif, de s'en servir pour éclairer aujourd'hui et essayer de prospecter pour demain, donc toute une série d'expositions de photographes qui sont dans la fleur de l'âge, qui ont une production prometteuse. Je pense à Evangelia Cranotti, à Mohamed Bourouissa, à toute une série, à Philippe Chancel, qui fait son projet Data Zone depuis une vingtaine d'années, et puis essayer d'explorer ce que sont les limites du monde et les limites de la photographie de demain à travers une grosse exposition qui s'appelle Sur Terre et qui interroge à la fois le rapport écologique et les nouvelles formes que prennent la photographie. Ça répond à votre première question. Votre deuxième question qui est sur les femmes.
Sur les femmes. La présence, ouais.
Alors, en fait, autant pour moi, c'était l'année dernière, en fait, cette tribune.
Leur présence, elle a été signée par des femmes photographes, vous le disiez, mais aussi des hommes, puisque ce sujet concerne tout le monde. On est très concernés par cette question à Arles, et c'est vrai que ça prend du temps, mais que les pratiques changent. On a une grande chance dans la photographie, notamment par rapport aux autres domaines de l'art. C'est que dans l'histoire de la photographie, c'est très facile de citer 10 grandes femmes photographes, et ce, dès le 19e, dès les origines de la photographie. Et moi-même, je dois beaucoup aux femmes. Mes premières expositions comme commissaire indépendant, c'était Dorothea Lang, c'était Tina Modotti, sans même se poser d'ailleurs la question de savoir si elles étaient femmes ou elles étaient hommes, elles étaient grandes artistes. Pour autant, la question de la qualité artistique n'est pas un argument que je souhaite mettre en avant. Bien évidemment, il faut faire un effort particulier pour
parce que pour les chiffres, juste, on est sur 20% de femmes exposées à Arles en moyenne sur les 47 dernières éditions.
Non,
49
ça,
dernières
ça c'est pas tout à fait le.
Ah, c'est parce qu'on pense que la durée. C'est moins
non,
vrai aujourd'hui.
Et puis c'est surtout parce qu'on on répète les chiffres qui sont répétés par les uns et les autres. Si on se penche sur ces questions-là de manière un tout petit peu plus sérieuse, on s'aperçoit qu'effectivement il y a une dizaine d'années ça pouvait être 20%, que l'année dernière on était à un tiers, que cette année on doit être à 47 ou 48%. Mais c'est pas les questions de chiffres qui nous intéressent. C'est comment on fait évoluer les pratiques et qu'on s'assure sur le long terme d'une présence affirmée. Il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, on a introduit la parité dans le prix Découverte, qui est notre grand prix à Arles. On a créé un certain nombre de prix qui permettent...
Vous dites la parité, c'est-à-dire dans le jury?
Non, la parité dans les 10 photographes qui étaient nominés pour ce prix. Effectivement, les jurys ont fait attention d'avoir des jurys paritaires, et ces dernières années, on avait très souvent des jurys exclusivement féminins. On a créé avec le Madame Figaro un prix de la meilleure exposition d'une femme photographe. Cette année, on lance le programme Women in Motion, qui décerne un certain nombre de prix. Les choses avancent, ça progresse. Il y a encore du chemin à faire, mais on est sur la bonne voie, me semble-t-il.
Quel est le modèle économique des rencontres d'Arles, d'un point de vue d'abord de vos propres financements ?
Je parlerai un autre jour de l'Afrique, on en reviendra l'année prochaine, puisque l'année prochaine, ça sera une grande année africaine. Sur le modèle économique, c'est un modèle plutôt sain. On a à la fois un certain nombre de financements publics autour de table et présents, le ministère...
Quoi, un quart en gros
Aujourd'hui, c'est 27% mm-hmm. du budget, sur un budget global d'à peu près 7,5 millions d'euros. Les financements publics restent assez bas.
Donc ça veut dire 73% d'argent privé, donc, extérieur.
Absolument. Et le premier contributeur au budget d'Arles, c'est le public qui paye son billet d'entrée, qui achète sa place. Ça nous confère une grande liberté et une grande légitimité. On est finalement légitimé par le public, parce que c'est une belle chose de faire une programmation, mais si cette programmation ne rencontre pas son public, on peut s'interroger. Donc 73%, une grande partie, 50%, c'est le public, et ensuite des mécènes.
Des entreprises, etc.
Mais personne ne finance plus de 8% du budget des rencontres d'Arles. Donc ça fait un budget très atomisé, mais ce qui nous rend aussi très libres et ni dépendants d'un unique financeur public, et encore moins dépendants d'un mécène privé qui pourrait faire la pluie et le beau temps à Arles.
Quel est le modèle économique ce coup-ci du côté des photographes? Il y a eu des débats, il y a beaucoup de débats sur cette paupérisation aussi des photographes, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont rémunérés pour être exposés à Arles? Comment ça se passe, le dialogue financier, si on peut dire, avec eux?
Oui, ils sont rémunérés, c'est récent, la structuration des rencontres d'Arles. On est une association, loi de 1901, qui investit tout son budget dans son projet. Pendant longtemps, il était d'usage dans la plupart des institutions, de ne pas rémunérer les artistes, considérant que les lieux de démonstration, musées ou festivals, participaient à la valorisation des œuvres.
Et on leur offrait le tirage, je crois, à l'époque.
Le plus que le tirage, c'est-à-dire l'ensemble de l'exposition qui a été produite à cette occasion. Et c'est toujours le cas. En moyenne, la production qui est de 15 000 euros par exposition, le photographe repart avec. Depuis l'année dernière, on a fait évoluer ce modèle en rémunérant, c'est pas complètement rémunéré, c'est plutôt dédommager les photographes. L'année dernière, c'était 500 euros de dédommagement, et on espère le faire passer à 1500 l'année prochaine. Mais cette question que vous évoquez, elle est essentielle. C'est la question de la rémunération des artistes. On se penche beaucoup sur cette question aujourd'hui. Le Canada est à la pointe dans cette question-là, avec un système très étatique où la rémunération des artistes est très normée. L'Europe et la France valorisent d'autres modèles. Moi, j'aimerais qu'on puisse arriver à la fois à rémunérer les artistes, mais on se rend bien compte que c'est pas en les payant 1000, 2000 ou 2500 euros qu'on va leur permettre de vivre. Il faut s'assurer aussi d'un certain nombre de débouchés pour les artistes. Et moi, je serais très heureux le jour où on aura autant d'artistes français que d'artistes allemands ou américains qui vendent leurs photos 10, 20, 30, 50 000 euros la photo. Donc il faut aussi être capable de valoriser le marché de la photographie. On a de la chance, le meilleur salon pour la photographie, qui est l'état des lieux du marché de la photographie, est en France.
Pour terminer cette émission, cette partie en tout cas qui est consacrée aux rencontres d'Arles, Stam Sourzé, on peut revenir un tout petit peu sur votre parcours et conclure peut-être sur comment vous voyez les évolutions de la photographie, notamment par rapport au cinéma, qui est une de vos spécialités. Vous avez, en tant que commissaire d'exposition indépendant, dirigé l'exposition Charlie Chaplin à la Philharmonie, l'exposition Jeu de Paume, Charlie Chaplin également, l'une va être faite, l'autre l'est déjà, l'exposition Fellini, etc. Vous avez dirigé le musée de l'Élysée à Lausanne entre 2010 et 2014. D'abord, quel est votre rapport à la photographie? Vous avez, je ne sais pas, des auteurs qui vous ont permis d'intellectualiser aussi ce travail. On cite toujours La Chambre claire de Barthes sur la photographie de Susan Sontag ou d'autres ouvrages, ou des photographes tout simplement qui vous ont accompagné, qui vous ont permis de vous engager dans cet art.
Effectivement, beaucoup ont écrit et théorisé très brillamment la photographie. Vous citiez Guibert tout à l'heure ou Sontag, mais c'est plus des photographes qui ont provoqué chez moi une adhésion totale.
Et, lesquels, par exemple?
Ma rencontre avec Robert Frank à travers son livre, et la question du livre de photographie est un point essentiel. Les Américains a été un vrai choc, un vrai coup de poing dans le ventre qui m'a mis KO et qui a fait que j'ai eu envie d'entrer en photographie comme d'autres rentrent en religion. Alors peut-être que cette tendance américaine, l'Amérique et la photographie a une longue histoire visuelle commune. C'est vrai que moi, mes deux grandes figures tutélaires, elles se suivent d'ailleurs en génération, c'est Walker Evans et Robert Frank, qui tous les deux vont photographier l'Amérique, même si l'un est suisse et l'autre américain, et à la fois tous les deux sont complètement empreints de culture européenne, de référence au graphisme, à la littérature, et feront fusionner cette culture. Et encore une fois, c'est là qu'on voit l'importance de maîtriser la culture pour être capable soi-même de restituer quelque chose, et l'un et l'autre seront les grands tenants de l'un des arts qui est l'art du XXe siècle, la photographie.
Walker Evans, il y a eu une très belle rétrospective justement à Georges Pompidou il y a 2 ans, je crois.
Et une très belle exposition à Arles il y a 3 ans, vous vous souvenez, bien sûr.
Que j'ai vu en plus. qui serait aujourd'hui peut-être, donc Walker Evans, qui photographie les États-Unis en pleine crise, notamment, pas que, qui serait un équivalent de Walker Evans aujourd'hui, si vous en connaîtriez un sur ce travail-là et sur ce travail de longue haleine? Est-ce qu'il existe encore ce type de travail en photo?
Oh, c'est une bonne question de le poser comme ça, très dur de répondre comme ça. Ça me permet d'essayer de réfléchir un petit peu. Chercher des similitudes, à mon avis, c'est s'égarer, parce que l'époque a changé et les intérêts sont complètement différents aujourd'hui. Je me souviens que l'année où on avait montré Walker Evans, donc il y a 3 ans, il y avait à la fois Walker Evans, une rétrospective Stephen Shore et le projet de Martine Parr et de Mathieu Chédid. Et d'un seul coup, là, on avait 3 générations qui se répondaient les unes les autres. On voyait combien Shore avait emprunté à Walker Evans et combien Martine Parr avait emprunté à Shore. Et pourtant, on peut pas faire un raccourci en disant que Martine Parr doit
qui
beaucoup de choses à Walker Evans.
Du monde, ouais.
Donc heureusement, il y a des évolutions. Quand on voit cet été l'ensemble du travail exposé de Philippe Chancel, photographe français qui est parti aux quatre coins du monde sur ces zones de tension et de friction à travers son projet qui s'appelle DataZone. On a un rare exemple de travail au long cours. Quand on regardait l'année dernière le travail de Laura Hainaut sur cette communauté ville abandonnée dans les États-Unis, on était
proche, ouais.
Peut-être pas proche de Walker Evans, mais en tous les cas très proche de Russie Lang, tout en ayant sa propre patte et en travaillant à la fois sur l'Amérique ou sur la question des migrants. Et on n'a pas encore parlé de la grande révolution d'Internet et de toute cette tendance de photographes qui travaillent sans appareil photo, en s'appropriant, en détournant les images des autres.
Une petite question peut-être sur Arles. On en a parlé, cette ville dont vous prenez possession, qui est un îlot aussi de gauche dans une région qui l'est un peu moins. Il y a un acteur qui est déjà là, mais qui va s'affirmer de plus en plus, qui profite d'une certaine manière de votre renommée, c'est la fondation Luma. Je crois que la grande grue a été démontée il y a à peine 2 semaines. Cette fondation, c'est une fondation donc privée, mais financée par des acteurs locaux. Quel type de relation vous entretenez avec cette fondation qui est censée contribuer à faire encore plus d'Arles une cité de culture dans le sud?
Alors, ça mérite peut-être un tout petit peu plus de d'explications pour vos auditeurs qui ne passent pas leur week-end à Arles, s'il y en a encore. La fondation Luma, dirigée par Maya Hoffman, héritière des laboratoires Hoffman-Laroche, et qui entretient une relation très proche, étroite avec Arles, où elle a grandi, fait construire par Franck Guéry une grande tour et a rénové sur 6 hectares ce qu'on appelle le parc des ateliers, qui va devenir un des grands lieux culturels européens, lieu où pendant longtemps les rencontres d'Arles ont déployé une grande partie du festival. Il y a eu des rapports un peu tendus entre nous il y a quelques années qui se sont très largement pacifiés et ensemble aujourd'hui on travaille régulièrement main dans la main et puis régulièrement aussi chacun sur nos projets. Ce qu'il faut noter à Arles, c'est la présence dans cette ville de 50 000 habitants d'un grand nombre d'acteurs culturels de premier plan au niveau international.
Acte
Sud, pour les éditions, l'École nationale de la photographie qui forme chaque année des étudiants à la photographie et qui inaugure cette année un nouveau bâtiment construit par Marc Barani. La fondation Liufan est en train de s'installer à Arles et c'est Tadao Ando qui en refait le bâtiment. Le musée archéologique est l'un des meilleurs du monde et tutoie le Louvre ou le Getty avec un terrain de chasse, plutôt un terrain de pêche qui est le Rhône derrière lui. Et dans cette période où de plus en plus d'artistes aiment décloisonner les champs culturels et réunir un certain nombre de compétences, d'avoir une dizaine d'acteurs qui, chacun dans leur domaine, sont des champions, ça crée un climat d'une concurrence, certes, mais d'une concurrence plutôt positive.
Une émulation, on va dire.
Absolument, émulation, c'est le terme.
Sur les démarches en cours, le renouvellement des démarches, les nouveaux sujets, les nouvelles thématiques, vous essayez chaque année que le festival, que les rencontres incarnent ça. Donc c'est à la fois le patrimoine, vous l'avez dit, mais les nouvelles, les expérimentations, l'innovation, la recherche et le développement. Donc c'est ce renouvellement des démarches sans fin.
Absolument. Les rencontres d'Arles sont un trait d'union entre le public et les artistes. On se veut caisse de résonance des pratiques artistiques, mais ça n'a de sens que si on arrive à le communiquer, à le transmettre. Donc là, ce rôle de transmission par l'exposition, mais transmission aussi par un programme pédagogique, un programme de formation à ceux qui peuvent être le plus éloignés de toute forme artistique nous intéresse. À quoi on assiste aujourd'hui en termes de création, à effectivement beaucoup de mutations. Les rencontres ont toujours voulu s'intéresser à la photographie, mais à la photographie dans l'acceptation la plus large. Aujourd'hui, on parlerait presque plus d'image que de photographie. L'image animée, il y a quelques années, a fait une intrusion tonitruante au sein de la création. Les photographes qu'on aurait plus tendance à appeler des artistes aujourd'hui pratiquent indépendamment la photographie ou le film. L'appareil d'ailleurs qu'ils utilisent enregistre indépendamment des images fixes ou des images animées. Et donc ça a été une grande évolution. Aujourd'hui, la réalité virtuelle fait aussi son intrusion. On a d'ailleurs ouvert au sein du festival un festival de réalité virtuelle qui est en quelque sorte l'anti-photographie. Si la photographie se définit par le champ et le hors-champ, la réalité virtuelle oblige à penser l'image en immersion totale à 360 degrés. Qu'est-ce qui se passe en même temps devant, derrière, au-dessus, en dessous? Et ça nous intéresse dans le sens où c'est une nouvelle forme d'écriture de l'image. Toutes les formes d'écriture de l'image sont présentes à Arles. Et puis une autre tendance auquel on assiste de manière encore plus prégnante cette année, c'est la manière dont les artistes travaillent eux-mêmes en collectif, en groupe, soit à plusieurs, photographes, vidéastes, soit photographes avec des scénographes, des architectes. Si les années 90 ou début 2000 étaient très individualistes, très auto-centrés sur la figure de l'artiste, on voit assister et émerger des pratiques collectives, collaboratives, et qui donnent lieu à des restitutions qui sont globales. Pour les artistes, c'est plus seulement la question de la belle photo exposée, mais bien de l'installation globale.
Merci infiniment, Stam Sourzé, d'avoir été notre invité ce soir pour les rencontres d'Arles qui commencent
dès le 1er juillet.
Voilà, début juillet à Arles, dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône. Soft Power, dans un instant, la seconde partie de cette émission, avec à 20h10 le Club de la Presse Numérique. Nous parlerons ce soir du groupe Média Vivendi, de ses forces et de ses faiblesses. Et nous le ferons avec Sandrine Cassini du journal Le Monde et Gilles Fontaine de Challenge. Et dans un instant à 20h, Zoé Sfez, votre invité Innovation.
Je reçois Fabien Benoît, auteur de The Valley, un livre qui essaye de sonder l'histoire politique de la Silicon Valley et qui met en exergue sur son 4e de couverture cette phrase de Pierre Diamantis: nous allons profondément changer la nature humaine, nous réinventer en tant qu'espèce, c'est notre job et nous n'attendrons ni les gouvernements ni les citoyens. On en parle avec lui à 20h.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après Prince sur France Culture. À l'instant, un morceau rare et magnifique de Prince en face B du 45 tours de Purple Rain. D'ailleurs, morceau utilisé par Patrice Chéreau dans son Hamlet de la Cour d'honneur du Festival d'Avignon. Morceau sublime pour annoncer la sortie le 21 juin prochain d'un nouvel album de Prince. Album qui rassemblera des démos et autres raretés, qui aura pour titre Originals, tout simplement. L'album est déjà en avant-première exclusive sur la plateforme de streaming Tidal.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfez.
Bonsoir Fabien Benoît.
Bonsoir.
Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste indépendant, documentariste. Vous êtes déjà l'auteur d'un livre qui s'appelait Le Monde expliqué aux vieux Facebook. C'était à cette époque loin.
Il y a quelques années
quand il fallait encore expliquer ce qu'était Facebook aux éditions 10-18. Et nous vous invitons parce qu'après avoir entendu la semaine dernière dans cette séquence innovation, Tristan Harris, qui est pas un renégat, mais en tout cas un ancien de la Silicon Valley, un ancien acteur qui travaillait chez Google et qui en est sorti, qui aujourd'hui est un des figures de proue du mouvement déconnexionniste, il nous semblait assez intéressant de revenir avec vous sur cette histoire politique de la Silicon Valley. C'est le sous-titre de votre livre paru aux éditions des Arènes, The Valley. Vous essayez de retracer depuis ses tout débuts, depuis cette petite mission de Saint-José ou Saint-Juan, d'ailleurs j'ai un trou.
Saint-Joseph
en Californie, et disons la manière dont il existe une véritable idéologie, une véritable histoire à cette vallée qui aujourd'hui est plus puissante qu'un État, vous le dites, et vous n'êtes pas du tout le seul à le dire. On parle souvent, on en a beaucoup reçu ici, des acteurs qui situent le moment de l'émergence de cette vallée au moment de la contre-culture, mais vous revenez au tout début et vous rappelez que cette fameuse vallée, elle est très marqué par ces figures des chercheurs d'or. Vous considérez, et avec vous plusieurs universitaires que vous citez, que c'est là véritablement que naît l'empreinte idéologique qui va marquer la vallée. De quoi on parle ?
En fait, je pense qu'il faut remonter assez loin pour comprendre un petit peu l'esprit politique, puisque c'était la quête et le but de cet ouvrage-là. Et je pense que la Silicon Valley, elle est installée en Californie, entre San José, vous le disiez, et San Francisco, sur une petite bande de territoire qui fait 70 kilomètres. Elle est inscrite dans ce territoire américain, même si aujourd'hui on se figure le numérique comme quelque chose de dématérialisé, déterritorialisé. Elle est quand même inscrite dans une histoire. Et les entrepreneurs, universitaires, chercheurs qui vont façonner cette histoire sont quand même empreints des mythes et de la mythologie américaine, à commencer par celle de la conquête de l'Ouest, des chercheurs d'or, et aussi celle de la destinée manifeste, c'est-à-dire cette mission presque divine d'aller conquérir l'Ouest américain. Et on le sent toujours aujourd'hui dans la culture, dans le langage, dans l'attitude et dans l'esprit politique, oserais-je dire, de la Silicon Valley, où il s'agit souvent de recommencer le monde d'une certaine manière. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand je suis allé discuter avec des gens dans la Silicon Valley, c'est qu'on parle très rarement du passé. On parle des problèmes du présent, mais on ne dit pas qu'il faut les réparer, on se dit souvent qu'il faut recommencer. Et finalement, il y a un peu dans la destinée manifeste, dans la conquête de l'Ouest, cette idée de tout recommencer sur un nouveau territoire, de reposer des bases, de changer le monde. C'est un peu le point Godwin de la Silicon Valley. Change the world, make a better place, make a better world. Il y a cette idée en permanence de tout changer. Et je pense que voilà, ce territoire-là et puis sa culture politique est marquée par des valeurs qui sont américaines.
Pionnier et un idéal au fait où l'État n'était pas là.
Exactement. Il y a une forme de nostalgie, et ça je pense que le livre en témoigne, c'est-à-dire qu'il y a un attachement profond à la liberté, et finalement, en fait, il y a chez beaucoup d'entrepreneurs, de penseurs de la Silicon Valley, une forme de nostalgie vis-à-vis d'un âge d'or un petit peu des États-Unis qui remonterait au tout début finalement de ce pays, à un moment où la liberté était totale, très grande, où l'État était très peu interventionniste, où il s'agissait de pionniers, de self-made man, d'innovateur, d'inventeur, et voilà, où la liberté individuelle, parce qu'on en revient toujours là, c'est la liberté individuelle dont il s'agit, était très grande.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous revenez aussi aux origines d'une des institutions fondamentales de cette Silicon Valley et qui est aujourd'hui encore un acteur majeur de cette économie du numérique, c'est l'université de Stanford, de laquelle on parle souvent, on parle parfois du MIT à Boston. Vous rappelez la manière dont cette université à la fois se construit, alors vraiment véritablement dans ce contexte de la fin du 19e siècle avec cette ruée vers l'or et ces entrepreneurs, on peut le dire, qui sont pas nécessairement des humanistes, le fondateur de Stanford est loin d'être cela, vous allez nous en parler, et comment d'emblée elle permet à des chercheurs, et elle se conçoit non seulement comme une université, mais comme un endroit où les gens vont faire des entreprises tout de suite. On a l'exemple, et vous en parlez très bien, de Frédéric Terman, qu'on connaît pas si bien, et celui de Hewlett-Packard. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ces trois figures et du contexte assez inédit que constitue alors Stanford ?
Alors Stanford, elle a un surnom que je signale dans le livre. Alors c'est The Farm, la ferme, parce qu'elle a fait, elle a nourri, elle a fait émerger de nombreux talents, de nombreux chefs d'entreprise et de nombreux prix Nobel, hein, faut le dire également. On la surnomme aussi parfois Get Rich You, l'université où on devient riche. Et en fait, elle a placé assez tôt dans son ADN, dans sa vision académique, si je puis dire, l'idée de fabriquer des entrepreneurs. Et c'est une des recettes finalement qui va faire son succès. Je le signale aussi, il y a une sorte de triangle de fer qui se noue, c'est-à-dire une relation à trois acteurs, l'université, l'État fédéral et en particulier le champ militaire, le département de la défense, et les entreprises et les entrepreneurs. Et c'est cette relation à trois, pour le dire vite, hein, pour résumer, mais qui va catalyser un peu l'émergence de la région. Stanford étant installé en plein cœur de la Silicon Valley, de la vallée de Santa Clara, en plein milieu, à Palo Alto. Et parmi les figures tutélaires qui vont accompagner ce changement, qui vont le catalyser, il y a Fred Terman, qui est un professeur à l'université de Stanford, dont le père était lui-même professeur à l'université de Stanford.
Psychologue spécialiste, disons, des surdoués, et avec là encore une spécialité, ou en tout cas un rêve très eugéniste, c'est-à-dire repérer les gens les plus intelligents et pourquoi pas en faire les maîtres du monde, cette aristocratie des plus intelligents. Ça, c'est une idée aussi qui est forte dans la Silicon Valley.
Voilà, c'est quelque chose, c'est un point qui est intéressant et qui mérite d'être souligné. Si on veut essayer de délimiter une sorte d'esprit politique de la Silicon Valley, on peut se rendre compte, et c'est l'objet aussi de ce livre, de retracer un peu, de tirer les fils historiques et finalement de se rendre compte que dès les débuts de Stanford, il y avait cette vision-là que les élites doivent gouverner, qu'en fait les inégalités sont naturelles, on n'est pas égaux et qu'il faut que ce soit voilà, les gens qui soient les plus doués ou les plus équipés intellectuellement. Le père de Terman était spécialisé ou a co-inventé les tests de QI.
Oui, ouais.
Et il y avait cette idée-là en fait, et d'ailleurs c'est pas un hasard si au début du XXe siècle, c'est en Californie que le terme même de technocratie émerge, c'est-à-dire un gouvernement, alors pas nécessairement par les plus intelligents, mais en tout cas par les plus compétents scientifiquement parlant. Quand on parle de technocratie au début du XXe siècle, c'est notamment une réponse au grand crash du début du XXe siècle, à la grande crise économique aux États-Unis. On dit qu'en fait, voilà, ils sont les techniciens, les ingénieurs seront plus à même de diriger le pays qu'un personnel politique élu par les citoyens.
Alors évidemment, ça c'est la fin du XIXe siècle. Tout ceci émerge, les figures de Hewlett-Packard avec effectivement une exploitation des premières technologies liées au téléphone, etc. Et puis ensuite, après, il y a ce fameux moment de la contre-culture californienne qui semble être un espèce de moment beaucoup plus ouvert, où on se met à rêver, où on est dans des questions d'idéaux. Et c'est un moment qui, vous le dites, en fait, dure très peu de temps, n'est absolument pas antithétique avec l'idée d'être libertarien et de se défaire de l'État. Et qui en fait se termine très vite. Et vous donnez la date de 76, une date qui est importante pour vous, c'est la date où un certain jeune Bill Gates envoie une lettre aux amateurs. Et qu'est-ce qui s'est joué entre ce moment de la contre-culture et ce moment de 76 qui referme finalement ce moment-là très vite?
Ben, y a un premier point à souligner qui peut paraître surprenant quand on s'y intéresse pas, c'est que la contre-culture californienne, le mouvement hippie en particulier, est pas du tout opposé au marché. Mmh. C'est-à-dire, il se défie des institutions, de l'État, de tout ce qui est centralisé. Et certaines valeurs qui sont vraiment inscrites au cœur de cette contre-culture californienne, en particulier l'autonomie individuelle, cette défiance vis-à-vis de l'autorité, en fait, est tout à fait compatible avec le marché et va être tout à fait compatible avec une idéologie qui est beaucoup plus droitière, les libertariens, qui eux défendent un individualisme assez farouche, assez radical, et qui aussi eux prônent la dérégulation et puis voilà le détachement de l'État et un État le plus réduit possible. Et là on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire ce mythe un petit peu fondateur des débuts de l'Amérique. Pour revenir sur 1976 et Bill Gates, c'est un moment. C'est une charnière, c'est très symbolique comme moment. C'est-à-dire que jusqu'alors, on est au tout début de l'histoire de la micro-informatique, c'est-à-dire que de jeunes bidouilleurs, de jeunes amateurs éclairés essayent de fabriquer des ordinateurs personnels. Ils pensent que cela va changer le monde. Et jusqu'alors, ils sont emprunts un petit peu des codes, de la culture universitaire. Et ils s'échangent des savoirs, les logiciels, gratuitement, dans le but de les améliorer, en fait, collectivement, de faire jouer l'intelligence collective.
Et en 67, Bill Gates leur dit, ça y est, ça c'est fini.
Et voilà. Et Bill Gates rentre dans la partie. Alors lui, il vient pas de Californie, hein. Il a été pouponné dans des lycées, dans des écoles, une université prestigieuse. Voilà. Il vient pas de ce monde-là. Mais lui, il comprend qu'en fait, le logiciel a une valeur économique et il réinjecte une dimension qui n'existait pas jusqu'alors dans ce monde du logiciel, c'est la propriété. Mmh. Et ça va ouvrir sur toute une période qu'on connaît très bien, ça va être les débuts de l'informatique et en particulier les années 90 où le logiciel, où l'informatique vont devenir un business.
Et vous citez d'ailleurs la création de la revue Wired en 93 qui finalement enfonce le clou de cette culture-là. Nous sommes déjà quasiment à la fin de cette interview et pourtant nous sommes dans un monde où tout ce qu'on vient de définir, donc la question du libertarisme, la question de la propriété qui revient sur le tapis en 76, sont au cœur finalement de la manière dont cette vallée fonctionne aujourd'hui. Une vallée qui, vous le dites, a plus de pouvoir d'un État qu'un État. Vous mettez en exergue sur votre quatrième de couverture cette phrase de Peter Diamantis, qui est président d'un think tank qui est financé comme beaucoup d'autres d'ailleurs par Google. Nous allons profondément changer la nature humaine, nous réinventer en tant qu'espèce, c'est notre job. Nous n'attendrons ni le gouvernement ni les citoyens. Il y a aussi véritablement aujourd'hui une idéologie transhumaniste et un idéal transhumaniste qui traverse la vallée. Vous le décrivez très bien dans ce livre et en détail. Que peut-on face à cette idéologie et concrètement au pouvoir des gens qui sont dans cette vallée? Est-ce que vous voyez une solution justement politique? On passe son temps, et ça fait partie des débats qu'on a souvent ici à Soft Power, à dire mais nous sommes face à un pouvoir économique. Quelles sont les solutions qui pourraient être politiques pour offrir une réponse politique à cette vision du monde qui est aussi politique et pas qu'économique?
Alors déjà, le constat que vous faites est juste, c'est-à-dire cette visée transhumaniste, et c'est bien là le propos de mon livre, c'est de dresser une sorte de trajectoire quant à cette culture politique, notamment le fait qu'en fait, elle est éminemment, c'est une forme de capitalisme radical, presque totalisant, totalitaire, dans la mesure où il veut embrasser tous les champs de notre vie, ne rien laisser de côté. Le transhumanisme, c'est ça. C'est aller jusqu'à la mise sur le marché de tout ce qui nous constitue. Moi, j'ai tendance à croire en l'État et à croire que l'État...
C'est effectivement, vous êtes à la fois très pessimiste sur le bilan, mais à la fois relativement positif, donc vos conclusions là-dessus.
L'attitude des États est assez ambiguë jusqu'à présent. Ils ont accompagné le mouvement, ils ont souvent accompagné finalement fait les louanges en fait des entreprises de la Silicon Valley et des GAFAM. On a encore entendu Emmanuel Macron, il y a très peu de temps, dire que la France devait être une start-up nation. Mais en fait, déjà, il faut commencer par interroger tous les concepts qui sont portés par la Silicon Valley. Les villes intelligentes, il faut mettre ça en débat et le questionner. L'école numérique, ça ne va pas de soi, il faut le questionner. Et puis, je pense qu'en fait, les États sont appareillés pour répondre aussi à ce pouvoir peut-être démesuré des grandes entreprises de la Silicon Valley. Aux États-Unis, juste pour finir là-dessus, par exemple, on commence à songer à démanteler des GAFAM. On commence à se dire qu'il faut imposer ces entreprises comme les autres, pas plus que les autres, mais comme les autres, pour qu'elles participent du bien collectif et de la collectivité.
En gros, les États ont des outils, il faut qu'ils s'en servent. Merci beaucoup à vous, Fabien Benoît. The Valley, une histoire politique de la Silicon Valley, est paru aux éditions Les Arènes. Merci.
Merci à vous.
Merci Zoé Sez, France Culture, le club de la presse numérique.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique ce soir, on parle du groupe de médias français Vivendi. Canal+, Universal, Gameloft, Editis, Havas. Dans le paysage des contenus des médias et de la communication, le groupe Vivendi est incontournable. Alors, l'actualité de ce groupe tout récemment, c'est le rachat du distributeur M7 pour 1 milliard d'euros par Canal+, qui appartient au groupe Vivendi, et puis des assemblées générales qui sont en cours actuellement, à la fois dans le groupe Vivendi et dans le groupe Bolloré, qui possède une part importante de l'ordre de 26% du groupe. Avec nos invités ce soir, Sandrine Cassini du journal Le Monde et Gilles Fontaine, journaliste à Challenge. On va revenir sur le groupe Vivendi, en partie Bolloré. On va se demander comment se porte ce groupe et puis s'intéresser à ses projets et à ses limites. On commence avec vous, Gilles Fontaine, peut-être sur le groupe lui-même, qui comprend tout un tas de structures un peu désordonnées, mais qui sont assez liées globalement autour de l'entertainment, disons, le divertissement et les médias.
Voilà, c'est un groupe qui a été un peu détricoté au moment de l'arrivée de Vincent Bolloré il y a 3 ans dans ce groupe. Il est arrivé par petits bouts. Aujourd'hui, il en est l'actionnaire majoritaire. Il est chez lui via le groupe Bolloré. Un groupe qui a été détricoté sans qu'il ait vraiment le droit de dire grand chose, parce que on était un petit peu à l'époque encore dans un raisonnement de banque d'affaires à la tête de Vivendi. Il s'agissait de désendetter le groupe. Et c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, on a l'impression que Vincent Bolloré essaye de reconstituer ce grand Vivendi qui existait avant, présent dans le cinéma, la musique, la publicité et les télécoms, avec un succès plutôt mitigé jusqu'à présent. Alors vous l'avez dit, il revient, il continue à essayer d'augmenter, on peut contester et puis essayer de comprendre hein, ses choix. On peut se demander aussi quelle est la vision, c'est pas toujours très clair. Mmh. Lui et ses lieutenants, Maxime Saada notamment à la tête de Canal+, qui est quand même un gros morceau aujourd'hui de Vivendi. Hein, 5
son
milliards,
fils aussi, Yannick.
Son fils, Yannick, qui aujourd'hui occupe la présidence du conseil de surveillance de Vivendi. Et puis d'autres de ses lieutenants parlent d'un nouveau Netflix à la française. Et notamment, il avait eu pour objectif, pour envie de mettre le centre de gravité de ce nouveau groupe de médias européens en Italie. Il avait eu pour idée de s'associer à la famille Berlusconi, hein, qui est elle-même à la tête d'un grand groupe de médias, Mediaset, mais qui est en difficulté. Et le groupe pensait pouvoir s'ancrer là-bas et commencer à développer un groupe qui déborderait sur tout le bassin méditerranéen. Ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, puisque les deux camps ont fini par se chamailler sérieusement. Résultat, Bolloré est un peu enlisé là-bas. Il a pris des participations aussi, on le sait, dans Telecom Italia. Il est juste au-dessus du seuil. Il est à un peu moins de 25% qui lui obligerait à déclencher une OPA sur le groupe. Mais il est coincé par un fonds d'activistes américains, Elliott, qui lui fait des misères. Donc il est embourbé en Italie sur ses nouveaux projets. En France, Canal+ a été redressé, ne perd plus d'argent, mais n'évolue pas non plus, continue à perdre des abonnés en France, en gagne un peu à l'international, d'où cette opération...
A été doublé par Netflix sur le marché français.
Exactement, a été doublé par Netflix sur le... On a l'impression que le nouveau modèle de médias à l'ère digitale tarde à se mettre en place.
Sandrine Cassini, vous êtes journaliste au Monde. Comment vous voyez, comment se porte ce groupe dont on doit rappeler qu'il fut un grand groupe, notamment avec Universal Cinéma, revendu depuis longtemps. On a gardé en français Universal Musique. Il faut bien distinguer ces deux aspects. Le cinéma est américain désormais, la musique reste française. C'est quand même le leader mondial. Donc on peut malgré tout dire que des choses vont bien. Comment, quel regard portez-vous sur ce groupe?
Bah écoutez, comme vous l'avez dit, Universal Music va bien, se porte bien. Et la particularité, c'est qu'Universal Music, c'est tout sauf contrôlé, dirigé par Vivendi. Mmh. Donc c'est là où c'est un petit peu la limite.
Pour ça
de
que ça se passe bien.
Voilà, c'est peut-être pour ça que ça se passe bien. C'est-à-dire que c'est dirigé depuis les États-Unis. Et Bolloré a de toute façon l'intention de faire venir des partenaires cette année. Donc de céder une partie du capital
à des Chinois,
peut-être. À des Chinois, à des Américains, rien n'est conclu, ça va dépendre de qui rachète. Pourquoi ça va pas si bien? Ça va pas si bien parce qu'en fait, entre l'histoire qu'ils nous vendent et la réalité opérationnelle, il y a un monde qui a l'air irréconciliable. On nous vend une histoire, l'ère digitale, on a des contenus, qu'on va tous faire travailler ensemble.
Et on a les tuyaux aussi, c'est ça l'idée. C'est
on
toujours un peu la version un peu
Italie,
messier, quoi.
C'est ça qu'on va construire. Alors sur le papier, sur un slide, ça fait une démonstration qui est absolument
sur une diapositive,
pardon.
Surtout quand on rachète, ce qui est le cas en 2016 de Gameloft et en 2018 Editis, groupe numéro 2 de l'édition en France.
Tout à fait, on a tous les contenus et on peut dire qu'on a aussi des tuyaux et on va mélanger tout ça et par une alchimie qu'on va savoir faire prendre, on va faire quelque chose de formidable. En réalité, leur principal frein, c'est l'opérationnel, je dirais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas su ni transformer, ni faire travailler ensemble, ni créer quelque chose. C'est un peu une addition d'actifs qui, pour certains, sont un peu dans des modèles anciens, type Canal+. Pourquoi Canal+, s'est fait doubler par Netflix? D'abord parce que Canal+, n'a pas su se transformer. Et ils n'ont pas su, eux non plus, le transformer. Ils n'ont pas su le mettre sur la voie de la VOD moderne avec des séries, en tout cas pas suffisamment vite.
Oui, c'est-à-dire là, et depuis deux semaines, on peut... il y a un abonnement Canal Plus Série qui pourrait être un concurrent à Netflix, mais c'est très récent, par exemple.
Voilà, c'est très peu et trop tard.
Voilà, ouais. C'est peu, c'est tard, c'est pas assez. Enfin,
le catalogue n'est pas tout à fait.
Catalogue n'est pas bien. Pendant des années, ils ont mis le frein, etc. Et dans toutes les initiatives qu'ils ont eues, par exemple, j'ai cité l'exemple de l'Italie. L'Italie, ça devait servir à mettre une assise sur cette stratégie de développement de Netflix à l'européenne. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est se disputer avec des partenaires potentiels, alors même qu'ils n'avaient même pas signé le contrat. Et ça, c'est tout Vincent Bolloré, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on est dans une stratégie où cet homme est vraiment très fort en termes de stratégie financière, prédateur financier, il sait prendre des boîtes comme personne ne sait le faire. Mais sur la suite, sur la construction, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de manque de savoir-faire. Donc, c'est aussi pour ça que le résultat sont pas toujours au rendez-vous. Et ce qui est assez amusant, c'est que alors soit ils sont dans la méthode Coué, soit ils espèrent toujours y arriver. Alors de la dernière assemblée générale, ils ont répété qu'ils voulaient faire un géant mondial du contenu. Européens, particuliers, etc. Et ça, c'est un discours qui nous tienne depuis 3 ans au moins, sans que ça n'ait vraiment avancé.
Il n'y a pas une question aussi très concrète de savoir-faire. Vous l'avez dit, Vincent Bolloré est très fort pour prendre des boîtes, mais surtout Vincent Bolloré ne connaît pas cette industrie très particulière qui est celle, on va dire, du divertissement de l'information. Est-ce qu'elle n'a pas des spécificités que lui n'a toujours pas véritablement réussi à appréhender?
Vincent Bolloré, c'est d'abord un dealmaker, c'est vraiment un financier. Et on peut se dire que même son entrée chez Vivendi trouve son explication exactement dans cette réalité-là. C'est-à-dire que il rentre dans un groupe qui est sous-valorisé, qui reste sous-valorisé aujourd'hui. On parle d'une valorisation aujourd'hui qui tourne autour de 30 milliards d'euros. Quand on se compare à Netflix, c'est pas beaucoup. Hein. Netflix, c'est plus de 180 milliards. Disney, c'est beaucoup plus, autour de 260 milliards. C'est un groupe qui est sous-valorisé. Alors, l'une des raisons pour lesquelles il veut ouvrir le capital d'Universal Music, qui, Sandrine l'a souligné, c'est vraiment la pépite du groupe. C'est une vraie cash machine, et ça, c'est vraiment l'équipe anglo-américaine qui est aux commandes, qui est à la manœuvre et qui a vraiment réussi ce très beau retournement, ce très beau succès.
On peut dire qu'Universal, c'était leur Swift, Kanye West, U2, Lady Gaga, Drake, c'est-à-dire quasiment les mastodontes.
C'est le numéro un du secteur.
Le propriétaire est français,
mais les dirigeants sont américains, le quartier général est américain.
À Los Angeles, voilà. et donc les Français mettent pas beaucoup les pieds là-bas, sauf pour faire des séminaires au mois de juin de direction où ils prennent un peu le soleil, ça leur fait du bien. Mais la réalité,
vous confondez New York et Los Angeles là.
mais si, en gros, ils cherchent un partenaire. Zoé, vous l'avez souligné, ça pourrait être un Chinois. On parle de Tencent notamment, qui pourrait venir en appui et ouvrir le marché asiatique et le marché chinois notamment à ce groupe. Mais derrière, il y a aussi une réflexion de valoriser Vivendi, c'est-à-dire que en cotant ou en valorisant d'une certaine manière Universal Music, on apporte de la valeur au titre Vivendi, qui est aujourd'hui la propriété à près de 24% du groupe Bolloré. Donc il y a toujours derrière ces réflexions, ces actions plutôt, une réflexion financière. Pareil, quand il a investi dans Ubisoft, le géant du jeu français, il est rentré, il a pris 20%, il est ressorti, mais il a fait une magnifique plus-value. Donc d'un point de vue stratégie vision, c'était une catastrophe, ils se sont cassés les dents. D'un point de vue financier, c'était un très beau deal.
Alors d'un point de vue financier, justement, dans l'actualité du groupe, Canal+, qui appartient à Vivendi, a annoncé le rachat pour un peu plus d'1 milliard d'euros du distributeur de chaîne M7. Alors M7, c'est 3 millions d'abonnés, essentiellement en Europe centrale et orientale, un peu au Benelux, un peu en Autriche, avec des deals pour HBO, pour Eurosport, National Geographic, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce rachat et éventuellement de cette idée, justement, en ayant un peu plus de tuyaux, de faire un peu plus de concurrence, notamment à Netflix?
Alors, franchement, je pense pas que M7 vienne faire de la concurrence à Netflix. Loin de là, ils font pas tout à fait le même métier, voire pas du tout. C'est-à-dire que essentiellement, ils distribuent des chaînes de télévision payantes, type Discovery, ce genre de chaînes. Donc ça, c'est très différent du modèle Netflix. Bon, oui, ils font de l'OTT, comme on dit, c'est-à-dire de l'abonnement par Internet, mais c'est tout petit dans leur chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant là, c'est que c'est la première acquisition d'envergure du groupe depuis 15 ans, quoi. C'est-à-dire que jusque-là, ils étaient plutôt dans la réduction des coûts, dans les économies. Donc là, ils achètent quelque chose qui est rentable, qui est gros. Ils repartent à l'essence. Enfin, si ça, c'est intéressant. Pour eux, c'est un vrai mouvement et c'est un métier qui est très complémentaire. Et j'ai envie de dire, l'avantage, c'est que la boîte marche déjà. Elle est bien, elle a son modèle. Ils vont pouvoir mettre peut-être des chaînes supplémentaires Canal qui peuvent faire augmenter la valeur. Et ça peut marcher. En tout cas, là où c'est malin, c'est qu'ils n'ont rien à transformer. Contrairement au Netflix européen qu'ils voulaient faire en s'alliant avec Berlusconi, où là, il y avait tout à construire. Et c'est vraiment ça qu'ils ne sont pas du tout arrivés à faire. D'abord parce qu'ils se sont disputés avec la famille italienne.
Gilles Fontaine, sur ce rachat de M7.
Alors, et à moi, il y a quelque chose qui m'a troublé. Je ne vois pas en quoi cette acquisition va bouleverser, en tout cas, le groupe et asseoir une nouvelle stratégie sur le long terme. On parle de 3 millions d'abonnés au Benelux et en Europe centrale, vous l'avez dit. Et il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de rupture, il n'y a rien là-dedans. Par contre, à nouveau, en annonçant cette acquisition, les dirigeants de Vivendi et de Canal+ nous expliquent que, vous comprenez, Comcast, le géant américain de la distribution de bouquets de télévision, était aussi sur les rangs, d'autres étaient sur les rangs. Donc, à nouveau, on se dit, est-ce que c'est pas encore se mettre sur les rangs? C'est que ils ont fait l'acquisition de ce groupe avant même que le fonds qui en est propriétaire le mette sur le marché. Est-ce qu'on n'est pas encore dans une logique financière là derrière? Et c'est vrai, Sandrine le soulignait, il n'y a pas aujourd'hui dans ce groupe, on ne sent pas de management opérationnel au fait de ces questions sur les nouveaux médias, les nouveaux développements. On voit bien qu'autour de Vincent Bolloré, il y a un petit groupe de personnes qui lui sont complètement inféodées.
Notamment ses enfants.
Notamment ses enfants. Il y a aussi à Vivendi, vraiment un groupe de personnes à la fois très compétentes sur les questions financières, mais on le voit beaucoup moins sur justement la vision et la stratégie technologique qu'il faudrait avoir dans ce métier. Et on dit, alors justement, ça a été dit au moment de l'assemblée générale du groupe Bolloré à la fin du mois de mai, où là, c'est vraiment la famille qui se retrouvait. L'idée, c'était d'adouber les deux fistons, hein, Cyril sur Bolloré et Yannick sur Vivendi. Et officiellement, donc, le paternel se met un petit peu en recul. Il a gardé un job de consultant du président chez Vivendi. En réalité,
qui sera son fils.
Et oui, en réalité, il est en l'occurrence, il est président d'Arnaud Puyfontaine, qui est le président du directoire, mais qui fait tout ce qu'on lui demande de faire, ouais. Arnaud Puyfontaine.
Alors, il aura 70 ans en 2022. Le groupe, lui, fêtera ses 200 ans. Comment est-ce que vous voyez, pour conclure, je sais pas, ce que serait ce groupe dans les années à venir?
Écoutez, déjà, je pense que la principale question qu'il faut se poser, c'est que Vincent Bolloré a promis qu'il partirait en 2022 et fait mine, en tout cas, de mettre tout en place pour que ce départ soit possible. 2022, il aura 70 ans. Et ce sera aussi le bicentenaire de son groupe. Donc là, il a une horloge qui décompte les heures avant ce départ. Va-t-il vraiment partir? C'est vraiment la question qu'on se pose. En général, dans d'autres histoires, on a bien vu que les dirigeants avaient beaucoup de mal à partir. Aujourd'hui, il a lâché toute fonction opérationnelle, mais à ses fils. Mais on sait très bien que c'est lui qui mène la danse, qui continue de mener la danse. Donc ça, c'est une première question. Est-ce que ses enfants auront vraiment le lead ou pas? C'est pas tellement le cas aujourd'hui, donc est-ce qu'ils seront prêts à le faire?
Le lead, ça veut dire la possibilité de diriger l'entreprise.
Pardon, voilà. Excusez-moi. Je commence à parler comme eux, c'est une vraie catastrophe.
Vous parlez le Bolloré.
Je parle le Bolloré, exactement. C'est catastrophique. Et après, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il sera toujours autant dans ses actifs, puisque c'est un prédateur financier. Par exemple, donc il rentre, il sort, il fait des plus-values. Aujourd'hui, il est embourbé dans Mediaset. En off, on nous dit, de toute façon, maintenant, dans Mediaset, qui est le groupe de Pierre de Berlusconi en Italie, ouais. On nous dit, de toute façon, là, il attend de sortir au meilleur prix. Sur Telecom Italia, qui est soi-disant les tuyaux pour mettre ses contenus, etc., un élément très stratégique, tout le monde pense qu'il va sortir aussi. Donc, dans 2 ans, je pense que le groupe aura un visage très différent.
Gilles Fontaine.
Oui, on attend toujours la grande opération en réalité. C'est ça qui est décevant en fait dans cette stratégie, c'est que alors on voit bien.
Mais ça pourrait être quoi une grande opération?
Ça pourrait être effectivement un rapprochement avec Tencent par exemple, quelque chose qui nous fasse sentir qu'il y a une vision forte derrière et quelque chose qui soit vraiment disruptif dans leur stratégie. On voit qu'il arrive effectivement à construire cette fameuse stratégie de convergence dont on parle depuis l'époque de Jean-Marie Messier.
Vous n'y croyez pas, Sandrine Cassini?
Non, j'y crois pas parce que l'expérience montre que chacun a sa particularité, les dirigeants ont leur particularité.
Les Chinois aussi.
Les Chinois aussi.
Est-ce qu'il aurait autant tapé sur Canal+, quitte à discréditer une partie de cette chaîne en assumant de la censure parfois, s'il avait vraiment une vision pour cette chaîne et pour ce groupe de ce point de vue-là?
Je pense qu'il a une vision, mais c'est pas celle à laquelle on a envie de croire pour le groupe. Il a une vision financière. financière qui vaut ce qu'elle vaut. Effectivement, c'est pas très poétique hein, de vouloir revendre le groupe en faisant un maximum de plus-value.
La stratégie, le fait de dire c'est une chaîne payante, c'est une chaîne cryptée, donc supprimons le clair qui nous coûte une fortune. Ça coûtait énormément d'argent à produire et ça rapportait pas un abonné, c'est vrai.
Notamment le grand journal.
Voilà, donc il a effectivement décidé de... Là, pour le coup, il sait redresser des boîtes, il sait couper les coûts. Après, il faut savoir développer. Et c'est vrai qu'il manque justement aujourd'hui les personnes par exemple sur le pour combattre Netflix, et il faut produire une plateforme en ligne en OTT qui permette effectivement de moyennant 10 € d'accéder à un catalogue de films incroyable, ce que fait pas Netflix hein. Ils pourraient se positionner sur ce créneau. Netflix, c'est beaucoup les séries, ils sont fâchés
et le catalogue de Canal+ est quand même extraordinaire.
Absolument.
En termes de cinéma, moins en termes de séries, mais en termes de cinéma, c'est incroyable.
Voilà, et par exemple, il faudrait aussi énormément investir en prenant des risques, et c'est pas tellement ce qu'ils savent faire, c'est pas tellement leur savoir-faire. Sur Havas, par exemple, c'est un groupe de publicité qu'il aurait peut-être fallu faire grandir, c'était leur ambition il y a 5 ans quand ils l'ont repris, et aujourd'hui, ça reste un petit peu ce que c'était il y a 5 ans.
On en restait là pour ce soir autour du groupe Vivendi, en partie le groupe Bolloré, puisque c'est à Bolloré qu'appartient Vivendi et ses différents éléments, que ce soit Canal+, Universal, Gameloft, Editis dans l'édition ou encore Havas dans la publicité dont on a parlé. Pour aller plus loin sur ces questions, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power et vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine d'archéologie de Vincent Charpentier. Merci Sandrine Cassini du Monde, Gilles Fontaine de Challenge et merci à vous Zoé Sfez.
Merci Frédéric.
En attendant, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.